Nous sommes depuis le bus Cartouche, juste derrière la gare Cornavin, ici à Genève, un samedi 27 octobre, pluvieux, mais cela finalement nous importe peu parce que l'on reçoit Alisa Host, bienvenue à toi, jeune écrivaine, qui vient nous raconter un petit peu son nouveau roman, qui s'appelle Zéro Trace, publié à Plan Vert, si je ne me trompe. Et voilà, alors, bienvenue à toi déjà.
Merci beaucoup, vraiment ravis de te recevoir.
C'est la deuxième fois.
Oui, la troisième, je crois.
La troisième fois, en fait, exactement. Et alors, on a beaucoup de questions concernant ce livre, mais peut-être qu'en introduction, voudrais-tu te présenter un petit peu plus pour les auditrices et auditeurs de Libre Radio ? Tu es Alisa Host.
C'est toujours difficile de dire qui on est, mais on va dire qu'est-ce que je fais peut-être. C'est mon deuxième livre, effectivement. Mon premier livre, c'est un peu là que tout a commencé. C'était après une aventure de 62 jours sur la voie des cœurs nomades qui a vraiment changé ma vie. Et j'ai décidé d'écrire à ce sujet et par hasard, ça a été publié donc, aux éditions Plan Vert. Suite à ça, j'ai continué à écrire. C'était une passion que j'avais déjà d'avant, mais que j'exerçais plus du tout. Et puis, je suis aussi artiste, donc j'expose aussi régulièrement des peintures. J'avais un collectif artistique, mais ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et puis sinon, ma passion, c'est les treks longues distances. J'aime traverser les pays à pied quand j'y arrive, parce que c'est pas toujours facile de maintenir les genoux en forme et tout ça, mais c'est une passion que j'aime.
Voilà, alors ça c'est effectivement une singularité que l'on a envie de relever, parce que quand tu dis trek longue distance, ça veut dire que tu pars a priori seul, dans des situations d'autonomie complète. Veux-tu nous raconter un petit peu comment ça se passe ?
Après, ça, par exemple sur le chemin de Saint-Jacques, j'étais pas encore en autonomie au niveau de la... J'avais pas de tente, voilà, j'avais quand même plus d'une dizaine de kilos, j'avais un peu tout sur moi, la nourriture, ravitaillement, mais voilà, après le chemin de Saint-Jacques, j'ai refait d'autres treks, moins longue distance, mais tout de même entre une semaine et un mois. Et là, effectivement, je voulais absolument camper. Donc je voulais tout avoir, la tente, le matelas, parce que je voulais vraiment rester dans la nature. J'en avais marre de ce clivage entre la nature et le soir, je vais rentrer dans un dortoir. Où, voilà, je voulais vraiment aussi passer le cap de la peur.
Et puis t'imprégner complètement de la nature qui t'entoure.
Et le deuxième pas serait de me nourrir aussi de la cueillette sauvage. J'ai commencé à faire ça, à apprendre, mais je suis pas encore là-dedans, mais pas à 100%. Mais je veux dire, j'aimerais bien vraiment pouvoir être en autonomie alimentaire. Bon, dans certaines conditions, pas en trekant peut-être, mais peut-être en restant dans un endroit et en... Parce qu'il faut beaucoup d'énergie, disons, quand on trek. C'est peut-être pas forcément possible de manger uniquement des plantes, mais c'est une idée.
D'accord. Dis-moi, d'où te vient ce besoin d'aller au contact de la nature, d'aller t'y baigner? En solitaire,
ça a toujours été le cas. Disons que j'ai toujours été très solitaire. Je me vois pas vivre autrement que seule. Et c'est vrai que j'ai pas le réflexe, j'ai pas forcément énormément d'amis très proches dans mon quartier. Donc forcément, quand je veux faire quelque chose, je me pose pas la question. Mais j'apprécie énormément quand je le fais avec des personnes. Ça arrive, bien sûr. Mais voilà, par contre, partir en trek longue distance avec quelqu'un n'a pas de sens, parce que déjà, il y a la rencontre avec l'autre sur ces treks. On rencontre moi, j'ai des amis incroyables que j'ai rencontrés là-bas. Et donc, ça n'a pas de sens parce qu'on ne veut pas toujours parler. Quand on est avec quelqu'un en voyage, on a toujours un contact, on parle, on discute, mais pour des treks, on a besoin d'être en contact avec la nature, se retrouver. On a aussi, c'est difficile de rester avec quelqu'un. Donc, on se perd, on se retrouve, on rencontre des gens. Mais sinon, pour le contact de la nature, franchement, je ne sais pas. Bon, j'ai une famille qui était très axée sur l'environnement, le développement durable. J'ai beaucoup marché avec mes parents, mais pas de camping. Par contre, c'était pas du tout des camphores, mais beaucoup de marches en montagne, beaucoup de marches dans la nature. Alors, il y a sûrement ça, j'aimais beaucoup. Et puis, c'est vrai que depuis le chemin de Saint-Jacques, je me suis vraiment vue vivre un rêve, partir avec mon baluchon comme quand je voulais quand j'étais gamine. C'était vraiment ça dans ma tête. Et c'est vrai que depuis, je me suis dit que je supportais vraiment plus de la ville et qu'il fallait vraiment que je me mette en communion avec la nature.
Tu as dit le mot peur tout à l'heure. Qu'est-ce que ça contient pour toi, ce mot peur ? C'est la peur face à l'inconnu ? C'est la peur de se retrouver face à soi-même ? Quel type de peur ?
Non, pas c'est plutôt oui par rapport aux autres. C'est-à-dire que quand avant, j'avais jamais campé. J'avais fait Saint-Jacques, ok, j'avais marché seul sur les routes. Des fois, on a peur parce qu'on se dit il y a quelqu'un qui va débarquer en voiture. Au final, il s'est jamais rien passé. Je touche du bois, mais au final, je me disais de camper, ça doit être, parce qu'il y en avait qui campaient effectivement, et ça doit être quand même quelque chose d'être en autonomie de logement. Déjà, ça enlève la question aussi, pas besoin de budget, ou c'est intéressant à ce niveau-là. Mais c'était vraiment pas dans ce but-là. C'était vraiment dans le but, je veux le faire, je veux oser me poser dans la nature et pas avoir peur de ce qui se passe autour. Et donc c'est vrai qu'après l'avoir fait, je trouve que ça m'a vraiment fait un déclic la première fois que je l'ai fait, effectivement, de me dire, bon, maintenant que je l'ai fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de peur, parce que quand on a l'habitude, c'est comme de marcher au bord des routes. Maintenant, c'est vrai que je me dis jamais, on va venir m'embêter. Je me dis, bon, je l'ai fait 1000 fois, ok, le sentier, il suit une route, bon, route déserte. Mais voilà, c'est pareil pour les bruits de la nature sauvage, on les apprivoise, on reconnaît les animaux, donc au final, on vainc sa peur. Et puis, pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'avais besoin de vaincre, la peur en général, de plein de petites choses comme ça.
Que rapportes-tu en général des voyages? J'imagine qu'il y a de nombreuses choses, mais parmi ces choses-là, lesquelles sont-elles les plus importantes? Est-ce que ce sont des atmosphères, des images, des odeurs, des récits?
C'est vrai que j'aime beaucoup la photo. C'est vrai que je prends pas mal de photos. J'aime beaucoup surtout par rapport. J'adore voir le soleil se lever ou se coucher. C'est pour moi, c'est le summum de. C'est le meilleur dans une photo pour moi. Et aussi de réussir à prendre en photo un petit écureuil ou quelque chose de très proche qu'on voit pas normalement qui fuit. Sinon, bien sûr, il y a les souvenirs. C'est surtout après qu'on se rend compte des souvenirs, des odeurs. Ils sont dans la tête et puis on se dit qu'on aimerait revenir et on rêve de ça, on rêve de revenir. Et surtout, je ramène les rencontres quand même. Malgré tout, en allant chercher la nature et le solitaire, je ramène des rencontres. C'est surtout ça.
Est-ce que, au bout du compte, c'est loin d'ici et dans des situations particulières que l'on rencontre pour de vrai autrui?
Je suis sûre que j'ai l'impression que c'est très dur de faire des amis ici, mais en réalité, c'est sûrement à cause du fait qu'ils sont ici, c'est le contexte, c'est pas les personnes. Peut-être par exemple quelqu'un qui est mon voisin, peut-être je n'arriverai pas à créer de lien ou à m'entendre avec, mais peut-être si je le rencontrais justement sur un trek, on deviendrait les meilleurs amis du monde. C'est ça qui, effectivement, ça change tout de la personne.
Ouais. Typiquement, peut-être que ici, les déambulations rapides, la tyrannie du temps et
Oui.
du rythme permet peu que l'on puisse lier
Oui,
et
puis on
que
a
l'on
aussi des
puisse rencontrer.
préjugés, on voit les gens dans un bus ou un tram, des fois on se dit oh là là, encore les mêmes gens qui nous poussent, enfin on se fait une image négative des fois des personnes rien qu'en les voyant parce que soi-même on est embêté, épuisé, fatigué.
Ouais. Est-ce qu'on en ramène de ces treks également une forme de conscience, la conscience d'autrui, la conscience de notre position par rapport au monde? Je dis ça spécialement pour toi parce que tu as d'autres casquettes et notamment on s'était rencontrés pour Zéro Déchet.
Ah oui.
Donc on sent qu'il y a une conscience extrêmement, qu'il y a une grande conscience de ta position et ta position dans le monde. Est-ce que ça c'est quelque chose que tes voyages ont également façonné?
Oui, je suis devenue assez extrémiste d'ailleurs dans l'environnement. C'est vrai que du coup, j'ai tendance à me dire, oh là là, il y a des gobelets en plastique, il y a ci, il y a ça. Non, mais c'est vrai que, en fait, c'est surtout de se rendre compte que, c'est surtout sur le chemin Saint-Jacques, je me suis tellement rendu compte que j'étais plus heureuse parce que justement, j'avais plus rien et que j'avais froid, mais j'étais juste quand même contente. Je sais pas, c'était vraiment une sensation très, très étrange. Et du coup, c'est vrai qu'après, quand on revient ici, on voit que tout est pas naturel, et du coup on a presque ouais, l'appréhension, on se dit mais pourquoi on fait tout ça, mais pourquoi si ça, puis ça développe des comportements très environnementaux, c'est-à-dire on commence à mépriser un peu tout ce qui est pas naturel, tout ce qui est, en tout cas dans mon cas.
Et puis, est-ce qu'on en arrive certainement tout au long de son cheminement à réduire peut-être ces besoins qui ont pris beaucoup de place et qui n'en sont pas des besoins, qui sont des besoins artificiels, à posséder de nombreuses choses, peut-être trop de choses?
Ah ouais, moi c'est ben complètement. Ben d'ailleurs, quand je suis revenue du chemin de Saint-Jacques, j'ai changé d'appartement et j'avais plus que. D'ailleurs, et encore maintenant, j'ai plus que 3 t-shirts, j'ai un studio. Enfin, mais c'est vraiment, vraiment. Pour moi, c'est un soulagement en fait, parce que le fait d'avoir trop de choses, ça m'a toujours fait peur. Bon, ça, je suis sûre que c'est peut-être propre à moi, mais ça m'a toujours fait peur. Je me suis dit, oh là là, le jour où je partirai sur ma vie nomade, qu'est-ce que j'en ferai? C'est comme si que je savais qu'il y a. D'ailleurs, elle est toujours peut-être pas venue cette vie, parce que j'ai quand même un appartement. Hein, et puis, je me suis toujours dit, qu'est-ce que je ferai de tout ça? Et j'ai toujours eu le plaisir à me séparer des choses en disant, voilà, ça, je vais donner, ça, je vais donner, ok, ça, je vais donner. Et j'ai jamais fini de donner en
Et
fait.
le fait de te séparer de ces choses-là, pour toi, ça, c'est pas quelque chose qui te fait peur.
Mais
Au
c'est le
contraire.
contraire, voilà, j'ai peur d'avoir trop de choses. Des fois, quand on m'offre des choses, je me dis, oh là là, mais ça, faudra encore que je trouve où le mettre parce que je veux pas le jeter. Mais en même temps, si je le donne, personne ne voudra ce truc. Mais moi, je m'en sers pas et c'est quelque chose qu'on m'a donné vraiment juste parce que la personne pensait qu'il fallait qu'il me donne un cadeau. Mais au final, bon, il y a des cadeaux qui sont très beaux, cela dit. Mais il y a aussi des cadeaux inutiles que, voilà, on a parce que la personne se sentait obligée pour diverses occasions. Et effectivement, au final, moi, ça me fait plutôt peur d'avoir trop. Même pour la nourriture, tout ça, je me rappelle un jour, j'avais une colocataire, ce qui est pas courant, mais pendant 2 mois. parce que j'avais sous-loué mon appart et elle avait, après on avait cohabité deux petits mois et puis elle c'est le contraire, il fallait qu'elle remplisse la nourriture dans les placards et moi je lui disais ça me fait peur parce que je me dis si je mange pas tout et que ça périme, elle avait l'effet inverse, ça lui faisait peur de rien avoir dans les placards et donc c'est marrant parce que voilà on avait vraiment l'extrême ouais. inverse.
Alors encore si tu as encore quelques questions
oui, bien sûr.
Tracer les ouais, contours ouais. de ta personnalité parce que selon moi ça importe beaucoup ah bah dans, oui. le, dans la rédaction
ouais, ensuite. Ouais, ouais.
Donc, tu es d'accord qu'on continue encore deux, trois petites questions parce que c'est ton dernier livre. On va faire vite parce qu'après, tu es occupé.
Ah ouais, non, mais voilà. En fait, je crois que là, c'est pas si critique. Okay. Je prends le temps, c'est pas.
Ok. Caro, n'hésite pas à intervenir si les questions sont gérées, n'hésite pas. Quelle serait l'étape après l'appartement? Parce que tu as dit, voilà, ouais. j'ai encore un appartement. Alors, est-ce que tu as déjà, est-ce que tu habites certaines idées sur le après?
Ouais. Bah, bon, là, ça peut paraître futile, mais j'ai un petit animal de compagnie depuis 7 ans que j'adore vraiment. C'est un lapin. Et puis il est en liberté, il n'a jamais de cage. Enfin bref, on va au parc dehors, je le sors. C'est vraiment pas un animal de cage. Hein. Et c'est vrai que moi, je ne me vois pas abandonner cet animal pour dire voilà, je veux faire ma vie nomade, au revoir. Donc tant qu'il est avec moi, déjà, je ne me vois pas du tout faire ça. Mais même après, j'ai aucune idée, j'aimerais bien laisser un petit peu le. Mais j'ai quand même une idée générale, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai toujours eu le besoin, et ça m'a jamais quitté, de ne pas avoir d'appartement, de ne pas savoir, quitte à. Travailler avec un endroit, avec une association, après partir à un autre endroit ou même gagner de l'argent à un endroit, parce que bien sûr, j'imagine qu'il en faut bien un peu. Mais il y a toujours eu l'idée de nomaditude, en fait, qui m'a jamais lâchée. Même quand je me dis, voilà, j'ai une vie heureuse, c'est ça, je peux voyager 6 mois, revenir là. Mais même, c'est comme si que ça suffisait pas. Il faudrait qu'un jour, je n'ai pas de pied à terre et d'affaires. Et voilà. Mais ça m'a jamais lâchée, peut-être parce que j'ai commencé à habiter seule très très jeune. Et du coup, j'ai toujours eu cette responsabilité de payer l'appartement, tout ça. Même sans que ce soit un poids, c'est quelque chose toujours qui m'a attirée.
Et ça veut dire qu'habiter quelque part, pour toi, c'est finalement, d'une certaine manière, s'emprisonner quelque
part. Oui, il y a toujours eu quelque chose qui n'allait pas avec ça. Je sais qu'il y a toujours... Après, il y a toujours les gens qui vous disent « Oui, mais tu sais, tu penses ça, et puis tu vas... T'as déjà vu ce que c'était un peu d'être dehors, et tu sais qu'au bout d'un moment, tu vas regretter, tu vas être mal, tu vas être des fois... » Mais même, on a tous des hauts et des bas, mais je pense que ça vaut la peine des fois... On voit des gens, bah, comme on parlait de Sarah Gisler, qui ont réussi à vivre 3 ans sur la route, comme ça, elles ont tiré des récits magnifiques. Il y a des hauts et des bas, mais on peut aussi être très malheureux dans un confort, on l'a vu beaucoup de fois.
Beaucoup de personnes, on entend beaucoup dire que l'enracinement, quelque part, est une vertu. Pour toi, est-ce une vertu ou justement, c'est plutôt un défaut ou un vice?
Bah, l'enracinement, bah, c'est vrai que...
L'enracinement une terre ou une culture, des choses comme
ça. C'est vrai que moi, ça ne me parle pas trop, du coup.
Ouais. Non, ou alors, c'est... ça te parle différemment.
Oui, c'est vrai, parce que bon, on peut être attaché... Non, si, en fait, oui, ça me parle... C'est-à-dire qu'on est enraciné toujours dans quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'on ne bouge pas. Non, absolument. Bah, on est toujours enraciné dans sa culture, on a toujours envie de revenir d'où on vient. Moi, je pense que même si je dis, voilà, j'aimerais être nomade de quelque façon que ce soit, parce que ça peut être... Il y a des extrêmes, ça peut être nomade, j'ai pas d'argent, ou ça peut être nomade, j'ai des endroits différents où je reste dans la vie, mais j'ai pas vraiment d'appartement. Mais effectivement, ça n'empêche pas que j'aurais toujours le besoin de revenir à Genève, ne serait-ce pour voir de la famille, où on a toujours besoin, on revient toujours au là où on est né, je pense.
Alors justement, quand tu pars, que ce soit pour un trek ou pour d'autres choses, quand tu pars loin ou dans des endroits qui sont extrêmement différents, quelles sont les premières choses qui te manquent? Est-ce que ce sont certains individus? Est-ce que ce sont certaines couleurs? Est-ce que par exemple c'est le vert d'une plaine verdoyante quelque part au Lavaux? Voilà, quelles sont les choses qui te manquent avant tout?
Quand je ne suis pas ici?
Voilà, quand tu quittes un moment.
C'est une bonne question. Ben, mon lapin.
Non, je plaisante. Ouais, non, mais voilà. C'est un non,
non, mais, oui. Non, mais en fait, ce qui peut me manquer... Bon, je ne suis pas sûre. Bien sûr, ma famille me manque, mais enfin, je sais que je vais les revoir. Donc, du coup, ça ne me manque pas dans le sens... je ne crois pas que j'ai un manque des gens ou, parce que je sais que je vais les revoir. Voilà, pareil pour le lapin. Mais je veux dire... Mais par contre, peut-être, ça me manque... Des fois, il y a des petits éléments de routine qui sont sympas. On aime bien faire ça le matin. C'est vrai que des fois, ça manque parce qu'il faut un temps d'adaptation. Mais ça manque aussi beaucoup quand on revient. Le contraire, ce qu'on faisait justement, je crois que ça, c'est pire quand même.
Okay. Et je pensais aussi à quels sont les sens qui ont, voilà, auxquels ces souvenirs font le plus souvent référence. Est-ce que c'est... une odeur particulière le matin, est-ce que c'est la vision? Parce que toi-même, tu as dit que la vision du soleil qui se levait était quelque chose qui, si j'ai bien compris, n'importe où dans le monde te séduisait.
Y
a-t-il d'autres choses qui justement te séduisent comme ça et qui peut-être pourraient manquer à l'appel lorsque tu es loin d'ici.
Mais c'est plutôt quand je suis loin d'ici que je peux voir le soleil se lever, en fait, parce que je ne suis pas matinale ici, je ne me lève pas, en fait.
Excellent.
Donc, ça, non.
Et les odeurs, et là, il y a quelque chose qui...
Bah, je ne sais pas si je ne suis pas très odeur, je ne suis pas sûre que j'ai un odorat très développé, parce qu'il y a sûrement, bien sûr, des fois, il y a une odeur qui me dit « Oh, ça me rappelle quelque chose, une époque, et ça me submerge », mais je veux dire, par contre, je ne sais pas si j'identifie qu'une odeur me manque...
D'accord, parce que les lapins, je crois que...
Alors, j'y viens d'y penser aux lapins, mais le lapin, ils sont très bons. Mais vraiment, hein, c'est incroyable, c'est comme les chats, c'est-à-dire qu'ils ont, ils se lavent et ils ont quelque chose dans la salive et ça fait qu'ils sentent vraiment bon.
Et puis eux-mêmes, alors, ont un odorat, ouais. Ça, je sais pas.
Oui, ah oui, eux, ils ont un odorat très
développé.
Ouais. Non, alors lui, peut-être son odeur me manque, effectivement, parce que vraiment, il est, quand on lui fait un bisou, il a une bonne odeur. Ouais. C'est vrai, non, ça, c'est vrai, c'est un bon exemple.
Alors, venons en voyage, juste avant encore, une dernière question, avant qu'on parle stricto... Du livre, qu'est-ce qui est compliqué, long ou éventuellement fastidieux lorsqu'un trait a lieu ? Est-ce que c'est la partie physique du trait ? Parce que des fois on y souffre, le moment où on n'est pas bien lors d'un trait, la mauvaise rencontre, la mésaventure. Est-ce que ce sont les préparatifs parce qu'il faut rien oublier, il faut tester le matériel, il faut trouver le bon matériel ? Ou est-ce que c'est le retour ? Parce que le retour, eh bien, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on n'est plus en voyage. Et qu'il y a peut-être une baisse de tension à ce moment-là, ou est-ce que c'est un petit peu des trois ? À toi la parole.
C'est vrai que le départ, c'est excitant parce j'aime bien préparer les choses, moi j'aime bien préparer le matériel, mais bon, c'est vrai qu'après, les derniers jours, ça devient très stressant parce qu'on sait qu'on va oublier des choses et qu'on va finir par se dire, oh là là, que finalement, ça ne va pas aller. Mais bon, ça va. Mais non, je pense que c'est plus, on anticipe la peur avant de partir, c'est-à-dire je me dis, et si peut-être je redoute une partie du trek que j'ai vu sur une carte, ou peut-être je redoute ce que j'ai entendu sur internet, mais c'est avant que je vais le redouter. Sur le moment, forcément, c'est toujours moins. C'est comme des fois, on peut marcher dans la rue, on peut se dire oh là là, je me suis un peu tordu le bras et on va faire tout un fromage. Alors qu'en fait, sur un trek, j'ai tellement l'habitude de me tordre tout qu'au final, je vais même pas prêter attention à toutes mes douleurs. Tandis qu'ici, je vais peut-être y prêter attention parce que j'ai rien d'autre à penser. Et du coup, voilà, mais c'est vrai qu'avant. Il y a plus de peur, d'anticipation. Et bien sûr, le retour, alors le retour, ça dépend. Il peut être agréable dans le sens où on peut dire, ah voilà, maintenant c'est fait, je suis contente de l'avoir fait. Ou il peut être, effectivement, après quelques semaines, avoir un contre-coup et un peu de dépression. Mais c'est vrai qu'au début, non, je pense que c'est pas si mal de rentrer d'un trek quand le retour était planifié, de toute façon. Donc, voilà.
D'accord. Quelle est la part de stratégie que l'on met en place et quelle est la part d'impondérable ? Est-ce qu'il y a un réel déséquilibre ou est-ce qu'avec, quand même, en mettant en place une stratégie, comme tu l'as dit, et l'expérience qui est la tienne, eh bien, on arrive quand même à scindre ou à, disons, garder sous contrôle d'une certaine manière les impondérables ou pas ?
C'est vrai que plus je vieillis, moins je planifie. C'est-à-dire qu'avant, sur le chemin de Saint-Jacques, je voulais absolument regarder dans le livre « Oh, il faut que je dorme là, parce que sinon j'ai peur de pas trouver. » Mais c'est vrai que là, par exemple, dans les Pyrénées cet été, j'avais aucune idée, même de la durée du... Bon, j'espérais que ça durait pas trop plus de 2 mois. Enfin, voilà, il n'y avait pas du tout de calculation de où j'allais dormir, parce que surtout que j'avais la tente. Mais même des fois, il y a des coins où c'est un peu repéré pour... On sait qu'il y a des gens qui aiment dormir à cet endroit et c'est indiqué, mais non, j'avais pas du tout pensé à ça.
C'est de plus en plus,
ouais. Et puis aussi,
il y a des problèmes de visa.
De visa.
Ouais, si par exemple tu vas de la Chine au Népal.
Ah non, mais j'ai pas fait ça. Non, en fait, moi, c'est vrai que les treks. Bon, au Népal, c'était le seul trek qui était pas. C'était pas vraiment intensif. J'ai pas traversé des pays, je suis pas allée en altitude. Sinon, ce que j'ai fait, c'était en Islande. Donc, il n'y avait pas du tout de soucis, sinon c'était majoritairement en France, en fait, sur la chaîne des Pyrénées, l'Espagne, pardon, France et Espagne, encore plus que France, mais du coup pas encore, mais j'en aurais peut-être, sûrement.
Puis est-ce qu'il y a des récits dans lesquels tu retrouves, par exemple, Le Clésio, qui parle énormément de voyages, de...
Ouais, j'ai pas lu, tu veux dire que je me retrouve dans des récits que j'ai lus avant.
Voilà, ouais.
Ouais.
Ah, des... t'identifie dans les écrits de voyage,
oui,
Nicolas Bouvier.
Oui, aussi j'ai beaucoup lu Sarah Marquis.
Ok.
Et effectivement, c'est vrai que je me dis des fois que non, je me rappelle de passages, ça peut arriver effectivement. Mais c'est vrai que quand je marche, c'est comme si je pensais peu à ce que j'avais. Il y a beaucoup de. Parce qu'il y a aussi beaucoup, par exemple le soir, il y a beaucoup de peur de où je vais dormir, donc finalement je me. C'est vrai qu'en plus, je peux pas lire parce que le sac est déjà lourd. Donc, c'est vrai que je m'éloigne un peu de... Je suis pas sûre que je pense vraiment à tout ce que j'ai lu pendant. Plutôt après, je dirais.
Y a-t-il déjà des lieux auxquels tu as envie de retourner, des lieux particulièrement magique. Tu as dit l'Islande. L'Islande est connue pour des paysages incroyables, ces geysers qui surgissent. Alors voilà, y a-t-il déjà pour toi des lieux qui sont particulièrement beaux et que tu risques de retourner voir?
Oui, moi, pour moi, d'ailleurs, je suis en train d'écrire un autre roman qui se passe en Islande. Parce que ça m'a vraiment marqué, l'Islande. Parce que, je sais pas, quand je suis arrivée là-bas, c'était vraiment un autre monde. C'était vraiment... déjà, les paysages, oui, c'est vrai que je m'y attendais pas. C'est vraiment... Ouais, c'est complètement autre chose. C'est comme si que même les nuages et le ciel étaient différents. Enfin, c'est complètement autre chose. C'est lunaire, en fait. C'est vraiment... On a l'impression, surtout sur le trait que j'avais fait, la partie que j'avais traversée, c'était vraiment... j'avais l'impression qu'il y avait le dinosaure qui allait surgir du détour d'une montagne, quoi. Ça ressemblait à rien que j'avais vu. Et bizarrement, en plus, bon, c'est sûr que l'été, il fait froid, il fait à peu près comme maintenant, 15 de même pas. Mais pourtant, malgré ça, c'était magique, je sais pas. Il y a quelque chose en Islande aussi, c'est tellement dépeuplé, c'est la population de Genève dans tout le pays, donc... C'est très très dépeuplé, c'est très spécial.
C'est marrant, il y a plus de touristes chinois qui arrivent chaque année en Islande d'Islande.
Ah ouais, non, absolument. Juillet, août, je ne sais pas s'ils sont que chinois, mais il y a une population qui c'est fois deux. Mais même, malgré tout, je n'ai pas vu tant de monde que ça. Je veux dire, même en ayant des touristes, il n'y a qu'une route qui fait le tour de l'île, et quand vous faites du stop sur cette route, elle est... Moi, j'ai pas vu tant, il n'y avait pas tant de voitures que ça. Il y avait il n'y avait pas de trafic, quoi. Bien sûr, il y a du trafic à Reykjavik, mais.
Ouais. Il y a quoi, 350 000 habitants environ?
Ouais, quelque chose comme ça, exactement. Comme à Genève, à peu près. Ouais. Superficie, c'est plusieurs fois la Suisse. C'est quoi? C'est 4 fois la Suisse.
Ouais, donc c'est vraiment dépeuplé.
C'est une grosse île, quoi. C'est
on peut imaginer qu'en plus à Reykjavik, ça...
Oui, parce que les touristes, c'est ça, ils arrivent quand même à Reykjavik. Ouais. Et du coup, il y en a qui sont un peu autour, mais il n'y a pas tout le monde qui fait le tour de l'île. Alors du coup, bon, j'ai pas fait le tour de l'île, du coup, j'ai pas eu le temps, parce que moi, je prends mon temps. J'ai resté quand même 3 semaines, mais j'ai pas été partout. Mais ouais.
Okay. Alors justement, pour prolonger la question de Caro, la littérature, pour toi, ça sert de guide de voyage également? On pense à Pessoa qui parle de Lisbonne, oui. On pense à Le Plaisir, puis à plein d'autres. Prosper Mérimée qui a beaucoup parlé de la Corse également.
Oui, et puis pour l'Islande, j'avais lu un roman, je n'arrive même plus à me rappeler, c'était en anglais, c'était une auteure... Mais c'était il y a super longtemps que j'avais lu. Alors, j'arrive pas à
dire. Tu puises également là-dedans des...
Oui, mais par contre, je ne vais pas forcément chercher... si je me dis je vais aller dans ce pays, je vais pas lire spécialement un roman avant. Mais par contre, ça peut m'arriver que je lise quelque chose et que le pays m'a attiré. Mais c'est pas forcément... C'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était plutôt le mode de voyage que j'avais lu de cette personne que lire sur un pays. Peut-être que je suis juste pas tombée sur les bons romans. C'est vrai que si je lis un roman qui se passe... Mais ça m'arrive effectivement par hasard de me dire ah oui c'est vrai, je me rappelle que j'avais lu ce roman, ça se passait là-bas et c'est inspirant effectivement.
Y a-t-il des paysages comme ça que tu aimes plus que d'autres, la toundra, le désert plutôt que la montagne ou pas du tout? Ou ça c'est la surprise à chaque fois, la découverte qui est inspirante?
Moi j'aime bien le changement, c'est vrai que sur le chemin Saint-Jacques c'est une des perles, c'est-à-dire qu'on a vraiment tous les 4 jours, c'est incroyable, mais pourtant on traverse que 2 pays, mais on dirait que c'est un pays différent tous les 4 jours quoi. C'est impressionnant.
Les contrastes,
oui, parce qu'il y a la Meseta qui est tout plat comme un désert, et tout d'un coup, on a les montagnes du Massif central, et puis tout d'un coup, on a des forêts, des landes. C'est vrai que c'est quand même hyper différent, quoi. Je veux dire, on a pratiquement tout en une traversée.
Une question très personnelle, le ciel, est-il pareil partout?
Ah, le ciel.
Les étoiles changent, effectivement. Enfin, c'est pas les mêmes qu'on voit
nuit.
La nuit. Mais la journée, on les voit pas. Enfin, voilà, quand on voyage, est-ce qu'on a un rapport spécial au ciel?
Mais moi, je suis un peu difficile avec la nuit. C'est-à-dire, moi, quand il fait nuit, je me mets dans ma tente, je dors. Enfin, ou dans mon ailleurs. Hein, oui. Mais c'est vrai que je ne suis pas du genre à regarder. J'aimerais beaucoup, mais je ne sais pas, il y a comme une démotivation la nuit. J'ai plus envie d'écouter de musique, j'ai plus envie de... J'ai une démotivation du soir. Mais je pense que ça vient du rythme de randonneur en campement, parce que quand on a envie de planter la tente avant la nuit, on se met dans la tente et voilà. Et on attend que le jour se lève. Et c'est vrai qu'en Islande, il faisait tout le temps le jour, donc il y avait un peu plus ça, c'était un peu plus intéressant pour moi. C'est vrai que je suis pas de la nuit.
Mais alors, par exemple, le grand Nord, les aurores boréales.
Alors j'aurais bien voulu voir, par contre, mais c'était bon, j'aurais pas pu les voir. C'était l'été quand j'étais en Islande, donc il n'y a pas de ciel noir, enfin il n'y a pas de nuit. Mais par contre, oui, non, bien sûr, ce serait génial de voir ça. Il faudrait juste que je sois un peu motivée à rester debout.
Mais c'est bien, c'est-à-dire qu'il te reste encore plein de belles choses à découvrir.
Oui, oui. Voilà. Et ça, c'est bien des fois que de se dire, on a tellement envie que le jour se lève qu'après, on est super content quand il y a une sorte
Et puis la journée, on est, j'imagine, tellement stimulé par tout ce que l'on voit que la nuit, eh bien, on a peut-être envie de revisiter ça en forme de rêve et en tout cas, de ne plus être stimulé du tout et d'être dans sa coquille.
Ouais, puis on a surtout envie de réussir à se réveiller correctement pour pouvoir repartir de là où on est parce qu'on peut pas toujours rester deux jours là où on est selon si c'est...
Écoute, avant qu'on parle effectivement du livre, encore deux petites questions, et c'est concernant justement la rudesse du climat, par exemple, qu'est-ce qu'on doit impérativement avoir dans son sac quand on est en trek comme ça, dans le sens où on peut affronter des fois des grands froids, de la neige, on peut tomber malade, on peut se blesser.
Alors pour moi, le filtre à eau est super important, comme ça, voilà, manque d'eau, ben, normalement on peut même filtrer l'eau d'une flaque d'eau, bon, moi je suis des rivières en principe. Ces petits filtres à eau Sawyer que j'ai, c'est pas de produits du tout chimiques, hein, c'est vraiment un filtre qui filtre 99% des bactéries, voilà, qui se nettoie. Et après, ben oui, pour le froid, c'est vrai qu'il faut toujours avoir un survêtement thermique, ça c'est super important. Bon, bien sûr, il y a des fois où on n'en aura pas besoin si on est vraiment sûr d'aller dans un désert à 35 degrés. Mais voilà, ça, j'aurais super peur de ne pas l'avoir, d'avoir un bon sac de couchage. Parce que si le sac de couchage, aussi, hein, il y a un sac de compression étanche que j'ai, parce que c'est vrai que si par hasard le sac de couchage venait à être mouillé, on ne pourrait pas passer la nuit, ça serait grave. Bon, selon où on est, on pourrait finir dans un hôtel, mais voilà. Mais effectivement, d'avoir aussi donc, la bonne cape de pluie, du coup, ça va avec. Parce que voilà, on veut pas que le buste soit mouillé pour pas trembler de froid. Les jambes, c'est pas grave. Les pieds, c'est pas trop grave, mais voilà, c'est le buste.
Médicaments, quand même, un petit antibiotique large spectre, ça, quand même.
Non, moi, alors je sais, on me traitait de folle sur le trek parce que j'avais pas trop sa pharmacie. J'avais rien du tout, en fait. J'étais dans le mode non médicaments, mais je crois que j'avais quelques sparadraps.
Mais.
J'avais rien, ouais.
Toi, tu y vas comme ça.
Bah, je voulais tellement éviter les milligrammes pour le dos, pour les genoux. Donc
le poids.
Ouais. J'avais...
ça, c'est un peu l'obsession, le poids.
Ouais. Il faut que ce soit quand même. Ah, ça, c'est l'obsession extrêmement... de tout marcheur, ouais.
D'accord. Donc là, il n'y a pas de petite économie.
Non, ouais, on compte les grammes, ouais.
On compte les grammes, d'accord. Alissa, si tu veux, nous allons passer rapidement au livre, puisque tu es parmi nous pour ce livre, Zéro Trace, publié aux éditions du Plan Vert ici à Genève. Il sort à peine maintenant et tu sors toi-même d'ailleurs une séance de dédicace à la FNAC ici à Genève. Alors comment s'est passée cette dédicace, cette séance?
Ouais, très bien, vraiment j'étais étonnée parce que en plus bon, mon réseau est déjà venu sur les autres dédicaces donc j'avais plus vraiment de réseau mais du coup j'y avais pas mal de passages, de gens qui sont venus ou de gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux donc c'était sympa.
On l'a dit, hein, c'est le deuxième livre, pas exactement. Tu précisais ?
Ah oui, non, c'est le deuxième livre, je voulais dire pas le roman, le deuxième roman.
Voilà,
oui. Non, parce que disons que mon premier livre était plutôt un récit de vie.
Voilà, et parce que justement, je voulais te questionner à ce propos. Est-ce là un roman avec une part autobiographique ? Est-ce là un récit également de voyage un petit peu ? Qu'y a-t-il dans Zéro Trace ? Et pourquoi ce titre ? Deuxième volet de la question.
Ouais, non, alors ouais, Zéro Trace, c'est vraiment un roman qui s'inspire. Bien sûr, j'y suis allée au Népal, bien sûr, j'ai fait le trek des Annapurna, mais c'était pas le... C'est pas un trek que j'ai fait seule, c'est la première fois où on m'a un petit peu forcé la main avec un guide, parce que bon, là-bas, c'est vrai que c'est plus courant, on va dire, et avec un petit groupe. Donc voilà, je voulais essayer, je me suis dit, bah, de toute façon, c'était un peu mon but plutôt de découvrir la culture, je pensais pas partir en autonomie là-bas. Enfin, j'étais en autonomie, je n'ai pas utilisé les services des Sherpas. Non, c'est pas les Sherpas, on dit les porteurs. Sherpas, c'est une communauté, c'est une ethnie, voilà, c'est faux, mais beaucoup disent les Sherpas pour parler des porteurs.
Okay.
C'est pour ça que je
les
redis. C'est vrai que dans le langage courant, beaucoup de personnes parlent de Sherpas, mais ce sont des porteurs en fait. Sherpas, c'est une ethnie. Du coup, c'était aussi surtout pour découvrir la culture, le Népal, et j'étais pas dans un des treks comme habituellement. C'est vrai que du coup, c'est justement plus la culture qui m'a inspirée, voilà, c'est quand même le tiers-monde. Quand on arrive à Katmandou, c'est vrai que c'était pas ma première fois dans ce genre de pays, mais je veux dire, c'était quand même terrible au niveau de la... Moi, j'ai pas parlé pendant 48 heures quand je suis arrivée à Katmandou, c'était tellement pollué qu'on portait des masques. Je veux dire, pour traverser une rue, on peut attendre, si on n'est pas avec quelqu'un du coin, on peut attendre une journée. Parce que ça passe, c'est de la pollution. Enfin, c'est quelque chose de tellement difficile à vivre, moi je trouve, franchement, ça m'a vraiment. Surtout quand tu penses un peu. quand t'es un peu, tu penses à l'environnement, à la pollution, c'est vrai que c'est quelque chose qui te frappe vraiment. Moi, je pouvais plus quoi faire, je voulais même plus parler.
Ça, c'est à Katmandou ?
Ouais.
Donc, grosse pollution et...
Et c'est tellement de pollution que tout semble sombre, même la journée, tout est noir, c'est de la poussière partout, les gens portent des... Non, vraiment, les gens portent des masques. Il y a un va-et-vient pas possible de camions, mais vraiment sans cesse, les motos, il y a même les rues piétonnes, c'est pas vraiment des rues piétonnes, c'est les motos qui te frôlent, tu dois te jeter sur le bas-côté de la rue, c'est... Non, c'est vraiment... Beaucoup plus choquant que tout ce que j'avais vu avant. J'avais pas été peut-être... J'avais été au Brésil, bon, c'était pas du tout pareil, hein. C'est pas vraiment le tiers-monde maintenant, ça dépend des endroits, mais c'est vrai que Katmandou m'a vraiment choquée, c'était le bazar complet au niveau de plein de choses, voilà. C'était un peu... J'imagine que c'est probablement un peu comme des grandes villes d'Inde. Et bon, mais du coup, après, je suis partie donc à Pokhara, une autre ville qui est beaucoup plus tranquille, pas loin des... Bon, malheureusement aussi beaucoup, beaucoup plus touristique, donc un peu avec moins de charme quand même, c'est moins authentique parce qu'il y a beaucoup de magasins un peu pour les treks. Dans les montagnes, dans la Annapurna, tout ça, là, c'était beaucoup plus authentique. Encore que malheureusement, sur le trek lui-même, quand on s'éloigne pas des sentiers, c'est aussi de plus en plus commercial, les guest houses, même des fois avec du wifi. Ah ouais, c'est tout récent. Mais j'ai quand même eu la chance après d'aller dans des villages un peu plus reculés, un peu plus où il n'y avait pas encore l'électricité. Et ça m'a vraiment fait pleurer à un moment donné d'émotion parce que c'était une vie tellement simple. Il y avait des gens qui vivaient dans je crois que c'était Ramkot, le village. Et il y avait vraiment voilà, des gens qui élevaient des animaux, qui préparaient le riz, c'était vraiment leur vie de village. Et je suis arrivée comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et puis je suis restée, bon bien sûr personne parlait l'anglais, mais j'étais avec quelqu'un qui traduisait. Mais c'est vrai que là c'était complètement différent. Ça, de passer de Katmandou à ça...
Et alors, à quel moment t'as eu l'idée du livre ? Est-ce que tu es partie avec cette idée-là ?
Non,
cette idée-là quelque part qui t'habitait ou pas du tout ?
Non.
Parce que quand tu parles de Katmandou et quand tu parles de zéro trace, on peut vite faire le lien
oui.
Dire « Ah, est-ce que c'est ça qui a déclenché que de dire ?» Voilà, ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'y ait plus de traces de l'humain d'une certaine manière.
Ah non, en fait, zéro trace, oui, j'ai pas répondu pour le titre.
Mais c'est bien grave.
Ouais, non, c'est pour ça. Non, parce qu'en fait, c'est pas lié à ça. En fait, le titre, c'est lié à... En fait, parce que la devise de tout marcheur en anglais, c'est « leave no trace », comme « ne laisse pas de traces ». Mais du coup, ça aurait bien été comme titre, mais c'est en anglais.
Ouais, ok. Donc ça vient de ça.
Voilà, ça vient de ça parce que... Voilà.
Donc le fait de ne pas laisser traces
ouais,
de soi.
Dans la nature, voilà. Ouais. Quand tu viens dans la nature, tu es un peu l'invité plutôt, pardon, et tu ne dois pas laisser des traces de ton passage, donc des déchets, des choses comme ça.
Ouais.
Et parce que l'histoire donc se passe sur le trek et il y a un des personnages principaux qui travaille pour une ONG, enfin plutôt qui est bénévole et puis qui est un peu extrémiste et puis qui décide de recenser les déchets sur le trek de l'Himalaya pour en parler à l'association.
Ouais. Et alors, pour toi, c'était important que... Parce que du coup, peut-on, d'une certaine manière, dire qu'il y a au moins un personnage engagé dans ce roman-là ?
Ah oui, c'est ce personnage qui est un des personnages principaux, ouais, elle est vraiment très engagée, elle est même très extrémiste, c'est justement quelqu'un de cassant, c'est pas quelqu'un de très très gentil, c'est quelqu'un de très cassant avec l'humain, c'est quelqu'un qui a vraiment un humour noir, qui parle de l'apocalypse, mais qui est très engagé dans la cause environnementale, les animaux, tout ça.
On pourrait dire que ce personnage pourrait contenir une des nombreuses facettes qui t'habitent toi.
Ouais, bon, après on dit que tous les personnages ont quelque chose de... Et c'est
oui.
Vrai, parce que je pourrais parler des autres personnages et on pourrait dire pareil, bien sûr. Ouais. Mais oui, mais en exagéré alors, dans ce cas.
Non,
je sais pas si je suis aussi...
Alors, voilà, voudrais-tu nous tracer un petit peu la trame de ce roman en quelques mots ?
Alors voilà, donc il y a cette femme qu'on voit recenser les déchets, donc elle est avec cette association, et puis... Après, en fait, il y a une autre personnage aussi qui est aussi une femme qui, elle, n'a jamais fait de trek et en fait, quelqu'un l'a convaincue d'aller se ressourcer là-bas après quelque chose de difficile dans sa vie. Et bien sûr, elle a la totale, le guide, les porteurs. Donc elle a ce choc justement que j'ai eu à Katmandou, donc on peut se retrouver dans tous les personnages. Et il y a aussi un autre personnage, un homme local en fait de l'ethnie Gurung, parce que c'est les Gurung qui sont implantés dans cette région des Annapurna, c'est une ethnie en fait, parce qu'il y a plusieurs ethnies, ils sont népalais mais ils sont Gurung.
D'accord.
Dans cette région-là.
C'est l'ethnie qui prime sur la nationalité.
Oui, c'est-à-dire, oui.
On n'est pas les, mais on est avant.
Exactement.
Tout.
Okay. Et ils savent reconnaître quelqu'un rien qu'avec le visage, tu es de cette ethnie. Ils savent reconnaître les ethnies, en fait. C'est très marqué. C'est...
La langue reste commune ou il y a quand même des.
Non, il y a un dialecte, ouais. Mais il y a une langue commune, oui, mais il y a des dialectes effectivement différents.
D'accord. Enfin, dis-moi, l'écriture, à quel moment tu la débutes ? Tu es encore en voyage quand tu commences à, au moins dans ta tête, avoir quelques phrases qui émergent déjà. Est-ce que tu as un carnet avec le, sur lequel tu notes des choses que tu reprends après, ou c'est bien après que le processus démarre?
Ah, c'est très différent quand c'est un roman ou un récit de vie, parce que pour Le Chemin de Saint-Jacques, bien sûr, j'avais des notes, mais je ne savais pas du tout que j'allais écrire un livre, en fait. Et du coup, forcément, j'ai consulté ces notes-là et tout. Mais par contre, là, non, au Népal, je n'avais pas de notes parce que... Enfin, j'avais des notes peut-être personnelles, mais ce n'était pas dans le but d'écrire.
D'accord, donc c'est plus au retour et après moment d'apaisement que l'écriture se met en route.
Ouais.
D'accord. Dis-moi, je vais quand même te poser la question, ça prend du temps, en heures, chaque quotidienne, d'écrire un ouvrage? Est-ce que c'est un accouchement de chaque instant, ou est-ce que ça va assez vite on...
Ben, moi, je mets à peu près un an si je m'y mets vraiment. Après, ça peut prendre plus de temps. Mais ouais, j'essaye de faire un peu chaque jour, peut-être le matin, une heure. Mais il y a des jours où j'écris pas, bien sûr. Donc, ça dépend complètement.
C'est un travail qui est fastidieux, ou c'est au contraire revisiter quelque chose de ta mémoire?
Ouais, ouais.
Un plaisir.
Non, bien sûr, c'est un plaisir. Si c'était pas un plaisir, ce serait pas utile de le faire, sinon ouais, il y a pas d'intérêt, parce que c'est vrai que c'est un plaisir avant tout, je veux dire.
C'est un plaisir avant tout, d'accord. Et quelle est la part de réalité et de fiction lorsque justement tu installes dans ce roman finalement la mémoire d'un trek?
Après, disons qu'il y a forcément les endroits où je suis allée, et ça c'est forcément, je vais les décrire comme je les ai vus. Il y a peut-être des personnages que j'ai rencontrés, des gens qui m'ont inspiré des personnages, effectivement. Ça, je pense que vraiment tout roman, tout auteur a probablement l'inspiration avec quelqu'un qui l'a connu. Ça, je pense que c'est toujours le cas dans tous les cas. Pareil pour les lieux. On a toujours un lieu en tête.
Ouais. Ouais. Et alors, donc là, on l'a dit tout à l'heure, tu sors d'une séance de dédicace. As-tu déjà eu des retours de lectrices et de lecteurs ?
J'en ai eu une, mais pas beaucoup. J'en ai eu une première sur Facebook, de quelqu'un qui avait acheté mon livre et qui m'a dit que c'était assez... Oui, parce qu'en fait, je sais ce que je dis. Avant, en fait, tu m'as demandé comment était l'histoire. Oui, voilà, en fait, donc il y a ces deux personnages.
Et
peut-être
exactement,
je vais...
la trame.
Oui,
oui,
juste pour finir ça, parce que sinon, on ne comprend pas de quoi effectivement on parle. La jeune femme qui est venue pour la première fois en trek, qui paniquait complètement... Qui n'a pas l'habitude, va se réveiller un matin dans un petit village qui s'appelle Gorepani, à peu près 2000 et quelques d'altitude. Il n'y aura plus personne, plus de guide, plus personne dans la guest house, plus personne dans le village. Elle va trouver plus aucune présence animale ou humaine, rien, plus de poules, plus de... Voilà. Et donc elle va pas être capable de par elle-même partir de... Elle va finir par le faire au bout d'un jour, parce qu'elle va plus pouvoir rester par elle-même toute seule dans la guest house. Donc elle fait un bout de chemin, elle rencontre l'autre personnage, donc la rebelle, la militante, l'extrémiste, qui va pas la croire au début, puis finalement elle va commencer à lancer des théories apocalyptiques, à la faire flipper, ça lui fait plaisir, ok, il y a plus personne, les humains sont plus là, et finalement ensemble elles vont essayer de revenir vers la ville, et elles vont rencontrer ce troisième personnage qui est Gurung, qui est un homme du coin, qui a une guest house, enfin qui avait, je m'en souviens même plus ce que j'ai dit, enfin voilà, et après l'histoire continue comme ça.
Voilà, cette mise en abîme comme ça qui nous interroge,
le fait de dire qu'il n'y
a plus personne, il y a un mystère, et finalement, eh bien, ces quelques personnes que l'on va rencontrer, eh bien, du coup, deviennent d'une certaine manière quand même précieuses, parce qu'elles sont uniques, elles sont rares.
Ouais.
Très bien, très bien.
Donc c'est ça.
On se réjouit de lire tout ça, dis-moi. D'autres moments de lecture sont-ils prévus? Est-ce que, voilà, quand on fait la promotion d'une certaine manière d'un livre... Comment est-ce que ça se passe? Tu vas un petit peu aller dans des librairies, ou voilà, est-ce qu'il y a une stratégie là derrière?
Oui, alors j'ai eu le vernissage qui était à la librairie du Vent des Routes, et après j'ai beaucoup de dédicaces dans les Fnac, et sinon je vais il y a un brunch culturel qui va être prévu à Mérin dans le nouveau écoquartier, c'est au Verger, dans le Tea Room Explorateur, je crois.
Oui, tout à fait.
C'est nouveau, voilà.
Absolument.
Ça devait se faire d'ailleurs en octobre, mais on n'a pas eu le temps vraiment de prévoir et il y avait trop d'autres événements. Mais du coup, ça va se faire. Et sinon, après, je ne sais pas. Il y a toujours des choses qui apparaissent comme ça, ah, sur la route, voilà.
Mais oui, ben oui, et puis c'est comme ça, c'est une aventure.
Exactement.
Comment est-ce qu'on peut déjà un petit peu lire la quatrième de couvre, toutes ces choses-là? Y a-t-il un site internet dédié?
Ah, il y a mon site internet, il y a toujours les informations sur donc www.alhost.ch. Et puis, je suis sur les réseaux sociaux tout de même. Voilà, les réseaux traditionnels, pour ne pas les citer. Et puis, sinon, sur le site des éditions Plan Vert, on peut aussi lire la quatrième de couverture ou dans toutes les librairies, si on demande et qu'ils ont le livre ou sur commande. Voilà.
On arrive doucement au terme de l'entretien, donc aussi une question surgit, n'hésite pas. J'aurais encore, moi, une question concernant la relation, parce que quelle est la part dans une relation autrice et éditeur-éditrice, comment est-ce que ça se passe? C'est la deuxième fois que tu es édité au Plan Vert, si je ne me trompe pas. Comment ça se passe? Ça va bien? S'il y a quand même une collaboration ou bien bah, on se voit au moment où on donne le manuscrit? Quels sont le processus et les procédures?
Non, on se voit beaucoup parce que déjà il y a beaucoup de salons. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, il y a le salon des petits éditeurs qui est le 10 novembre. Et il y a le salon, je crois que c'est un salon en France, du Grand Genève, vers le Salève, au Pommier. Et donc, ça c'est aussi, sauf erreur, le 28, le dimanche novembre, voilà, en novembre. Donc, il y a beaucoup de salons, en fait. Ouais. C'est ça, il y a beaucoup d'événements. Et maintenant, bah, du coup, il y a quand même... Et puis, l'éditeur a un bureau pas loin de là où je vais tous les jours un peu pour donner des cours. Donc, du coup, ça m'arrive de venir chercher des livres. Donc, non, il y a vraiment une relation.
Il y a une relation comme ça, une publicité qui s'installe.
Ouais, absolument.
Très bien. Et la suite, alors, tu as dit que déjà un troisième livre surgit dans ton esprit.
J'essaye toujours parce que si on ne se met pas à écrire aussi quand on a les idées, au bout d'un moment, mais ça prend déjà tellement de temps que c'est quand même bien quand on a une idée de le faire, quoi, plutôt que d'attendre d'en avoir une autre. Parce que c'est vrai que l'Islande m'a vraiment inspirée et puis j'ai vraiment eu envie d'écrire un autre roman qui se passe là-bas.
D'accord. Avec une part là aussi de récits, de science-fiction et d'aventure.
Ouais, il y a toujours un peu l'histoire du vécu. Parce que moi, c'est vrai qu'un peu avec les livres, je m'éloigne jamais de ces histoires de trek, d'environnement. Mais c'est vrai que moi, j'ai aussi un peu le rêve un jour de réussir à faire un autre trek beaucoup plus long et d'en tirer un récit. C'est vrai que j'aime beaucoup écrire des romans, mais j'aimerais aussi écrire un récit. Mais ça, il faut vraiment... pour moi, écrire un récit, ça ne se fait pas pour juste une aventure de deux semaines. Il faut vraiment que j'aie vécu quelque chose, que j'aie...
Que t'es plutôt imprégné.
Ouais, que j'ai beaucoup à dire.
Tiens, une question?
Non.
Alors, moi, j'en ai encore deux petites rapidement.
Ouais, pas de soucis, pas de soucis.
Parce que je sais que tu...
Voilà, non, pas de soucis. Allez,
alors, les meilleurs moments pour écrire, quels sont-ils?
Bon, pour moi, j'aime bien écrire le matin parce que du coup, j'ai juste à me réveiller et puis à écrire. Du coup, j'ai pas besoin de changer d'endroit. Du coup, je sais que je vais le faire. Je sais pas, comme si pour peindre, je dois installer le chevalet, je dois faire ça. Donc, le soir, c'est mieux, mais le matin, je peux écrire. Comme je ne suis pas vraiment du matin, je travaille pas le matin, donc voilà.
C'est une contrainte, enfin, il faut physiquement te dire que voilà, je me mets là et puis j'écris comme ça. Ou bien c'est un petit peu comme ça à la...
Non, j'ai pas besoin d'un lieu précis. Moi, je pourrais écrire n'importe où. C'est vrai, il y a des gens, ils me demandent souvent, mais c'est vrai que moi, je pourrais même mettre, je sais pas, si je devais passer 5 jours enfermé, bah, je me dirais, bah cool, je vais faire que écrire, quoi. Même si j'étais dans une cellule trop moche, je veux dire, bah justement, je serais bien créative, justement, puis j'aurais rien d'autre à faire, ce serait même encore mieux. Parce que si j'ai un beau paysage devant moi, je vais vouloir le prendre en photo ou me marcher. Ou...
Très bien, très bien, bah oui. Et alors, dernière question, de ton point de vue, comment va le monde? Puisque voilà, tu en as vu une certaine partie quand même, et on l'a dit tout à l'heure que tu as vu des contrastes. Alors est-ce qu'effectivement, les phénomènes d'entropie, le phénomène de réchauffement climatique, il y a des collapsologues maintenant même en courant comme ça qui dit on est trop tard, on va dans le mur même si on arrête tout. Voilà, de ton point de vue, comment va le monde? On a quand même des raisons d'être optimistes et émerveillés.
Bah, moi déjà, il y a une chose, c'est que je sais bien que malgré toutes les questions que j'ai, je ne sais pas tout. Et d'ailleurs, personne ne sait tout. Je veux dire, je n'ai pas suffisamment étudié les choses pour dire qu'on est récupérable ou pas. Ça, je sais des fois qu'il me manque beaucoup. Je sens que j'ai des grosses lacunes dans plein de choses. Je veux dire, je n'ai pas tout étudié. Je n'ai même pas étudié beaucoup en général. Je veux dire, je ne connais pas tout sur le monde, bien sûr. Mais par contre, c'est sûr que Moi, je suis convaincue qu'effectivement, ce qu'on fait, la plupart des choses, va vraiment nous mener droit au mur. Vraiment, je veux dire, je pense pas que... Je crois pas un mot de ceux qui disent que, de toute façon, la Terre se réchauffe, c'est naturel. Je veux dire, c'est très rapide. On voit par rapport à avant, c'est extrêmement rapide. Et puis, quand on voit tout ce qui se passe, je veux dire, c'est impossible que ça n'ait pas d'impact parce que c'est juste pas naturel. Je veux dire, c'est même pas censé... se produire tant de... Je pense pas qu'effectivement tout ce qu'on déverse dans l'eau soit, puisse être anodin pour rien que pour les organismes qui y vivent, je veux dire. Voilà, donc je pense vraiment qu'effectivement... Par contre, j'ai aucune idée si c'est stoppable ou pas. Ça, c'est ça que je vous dis, je manque effectivement dans ce cas-là de possibilité de juger. Mais effectivement, pour moi, c'est... Le problème, c'est que ouais, les gens veulent trop leur confort, ils veulent des voitures électriques pour remplacer, mais on ne peut pas remplacer, on doit réduire. Parce que... Donc voilà, donc le problème, c'est la mentalité. Le problème, c'est que voilà, il faudrait vraiment un gros changement, mais ça, c'est les lobbies, le gouvernement. Donc je ne sais pas si... Puis en plus, les gens, ils ne se rebellent pas tant que ça contre, donc ça fait un cercle vicieux. Donc non seulement il n'y a pas assez de rébellion, et en plus, on sait très bien que ceux qui décident, ils décident... Donc c'est difficile, mais quand même il y a quand même une grosse mobilisation par rapport à il y a une vingtaine d'années. Il y a quand même beaucoup plus de conscience, voilà, les déchets, tout ça. C'est vrai que maintenant ça devient un peu courant d'en parler. Avant, c'est vrai que c'était plus ignoré. Peut-être si on disait, oh non, je veux pas de ton gobelet en plastique, les gens ils étaient comme quoi. Ouais. Mais maintenant, c'est vrai que, ah ouais, ok, tu fais un plan zéro déchet. Enfin, ouais. c'est devenu un peu plus courant, mais est-ce que c'est vraiment en train d'avancer positivement? Parce qu'il y a tellement d'autres choses. Même quelqu'un qui pourrait refuser un gobelet en plastique, il pourrait faire d'autres choses derrière. Et... Enfin, on ne se rend même pas compte. Ce n'est même pas la faute des gens. C'est juste tout ce qu'on a commencé à faire. En fait, tout est fou pratiquement. Mais on ne se rend pas compte.
D'accord. Eh ben, en tout cas, je te remercie beaucoup, Alisa, d'être venue jusqu'à nous pour nous parler du livre Zéro Trace.
Merci.
C'est peut-être là une des solutions de ne plus laisser disséminer les traces comme ça et d'être plus attentif et plus conscient, comme tu l'as dit. Alors, le livre Zéro Trace est donc paru aux éditions Plan Vert ici à Genève. Il est disponible d'ores et déjà dans les librairies,
ouais.
Notamment les FNAC.
Ouais, ouais, Payot, tout, les petites librairies aussi.
D'accord. Très bien, ben j'espère qu'on va se retrouver pour
d'autres
récits et pour tous ces témoignages que tu nous fais à chaque fois. Merci beaucoup.
Merci à toi, merci.